Vous écoutez, on lit pour vous.
Les gains et les coûts de l'accessibilité au théâtre. Un texte de Catherine Lalonde paru le 31 mai 2025 dans Le Devoir. Vendredi, le 30 mai 2025, la pièce « Chers parents » au théâtre du Rideau Vert comptait 5 interprètes de plus que les autres soirs. Au pied de la scène, devant la première rangée, se tenait un traducteur par comédien. Ils sont 5. Qui donnait les répliques en langue des signes québécoise, LSQ, au profit des spectateurs sourds ou malentendants. Le vendredi précédent, c'était soir de théâtro-description. Écouteurs aux oreilles, téléphone en main, les aveugles et malvoyants s'y faisaient narrer gestes et actions par une voix hors champ qu'eux seuls entendaient et qui se glissait entre les dialogues. Pour ces spectateurs-là, une visite tactile était aussi proposée avant le spectacle. Elle permet aux gens de marcher sur scène, de découvrir de plus près le décor, d'en toucher des éléments, de tâter costumes et textures. Lorsque le Rideau Vert a commencé en 2022 à offrir des représentations accessibles, il n'y avait à peu près que dans Cité, et lui, qui en offrait, relate l'attaché de presse Alice Côté-Dupuis, sans compter les institutions du côté anglophone, bien sûr, qui sont plus avancées à ce chapitre. Ce mouvement d'inclusion, devenu plus tangible avant la pandémie, est mû par deux idées. D'abord, l'éthique. Les programmes d'accessibilité pour personnes en situation de handicap visent à garantir l'équité d'accès, l'autonomie et la participation pleine à la vie culturelle. Les salles de spectacle, les musées, où les diffuseurs télé voient comme une responsabilité sociale le fait de réduire les obstacles, physiques, sensoriels, etc., qui limitent la participation de tous à la culture. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec reconnaît le droit des personnes handicapées à l'égalité et à la protection contre la discrimination. Ces droits incluent l'accès au transport, à l'éducation et à la culture. Et n'y aurait-il pas pour les arts, de surcroît, un nouveau public à aller chercher là pour garnir des salles où souvent les têtes des spectateurs blanchissent de plus en plus, voire une voie de sortie de crise de la culture? Dans les premières années, le Rideau Vert a noté une augmentation continue de ses spectateurs neufs. Maintenant, nous remarquons que cela semble stagner, probablement parce que davantage de scènes offrent désormais des options semblables, estime Mme Côté-Dupuis. La Maison Théâtre et Montréal Art Interculturel, MAI, sont de ceux qui creusent aussi ce filon, parmi plusieurs institutions. Cela disperse le public, mais prouve aussi l'effet d'entraînement, de contamination. Des heures et des spectateurs. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ces spectateurs viennent et reviennent? Au Rideau Vert, ce public suit la courbe du public régulier. Si un spectacle est très populaire, il l'est pour tout le monde. Chiffrons. En 2022-2023, le Rideau Vert accueillait 84 spectateurs venus pour la théâtro-description. Ils étaient 108 en 2023-2024 et devraient être 120 à la fin de cette saison. À Danse Cité, depuis 2021, 22 spectacles de danse ont été audio-décrits pour 221 spectateurs et 211 accompagnateurs. En moyenne, chaque spectacle a ainsi accueilli 10 spectateurs cibles. Tous les théâtres interrogés ont dit leur fierté de porter ces programmes, l'engagement qu'ils provoquent dans les équipes et chez les communautés visées. À Danse Cité, les dépenses associées à une audiodescription en direct, comme celles qui seront faites pour Nuit de Jean-Pierre Perrault ou pour le public jeunesse avec Bataille à la Maison Théâtre, oscillent entre 9 000 $ à 11 000 $. Car ce passage de la danse au langage ne se fait pas en crayon-ciseau. Imaginez, toute une chorégraphie à décrire avec des mots. Allez-vous parler de chaque mouvement? D'une ambiance générale à un moment clé? Allez-vous décrire une action ou les sensations et images qu'elle génère? À ce travail s'ajoute le temps de l'équipe, à peu près 80 heures par projet. C'est beaucoup plus difficile d'évaluer le temps consacré au développement général du projet, formation, développement des partenaires financiers, des diffuseurs et des lieux, concertation, table ronde, etc., a indiqué Christine Charles de Danse Cité. Le diffuseur est d'ailleurs dans une campagne de financement continue, audio description pour toujours, et vise à obtenir 20 000 $ pour encourager le maintien du programme. Car si Danse Cité a bénéficié de fonds publics spéciaux lors des premières années, le soutien de partenaires privés est maintenant vital. Pour l'instant, un seul a répondu cette année, contre 7 en 2024. Troubles financiers d'adaptation. Au Rideau Vert, les frais réels représentent environ 45 000 $ par année pour l'interprétation en langue des signes de 3 spectacles par saison. Chaque interprète, LSQ, passe 40 heures avant la représentation à se préparer. C'est le tiers des 120 heures de répétition dont bénéficie en général un comédien pour un premier rôle dans un spectacle. La théâtrodescription, elle, coûte 15 000 $ par an et le surtitrage environ 5 000 $. Avec la coordination, les activités de médiation culturelle, visites tactiles, rencontres avec les artistes et ateliers, les communications spécifiques, le budget total de ce programme tourne autour de 100 000 $ par année. En 2022-2023, les 3 initiatives avaient attiré 214 spectateurs cibles. En 2023-2024, 274. Serons-nous dans l'obligation d'abandonner ce nouveau public qui a lui aussi droit à l'accès aux arts, au théâtre? Se demandait le Rideau Vert dans un mémoire pré-budgétaire. Si nous n'obtenons pas de soutien spécifique ou que le soutien à la mission n'est pas augmenté, nous aurons une décision difficile à prendre quant à l'avenir de ce projet mis en place au cours de la saison 2022-2023. Adoucir la catharsis. Le loisir adapté est très intéressé actuellement par la culture. Là où avant il se tournait davantage vers le sport, précise Isabelle Boisclair de la Maison Théâtre. C'est la 3e année que la Maison Théâtre offre des représentations sensoriellement adaptées. On crée une bulle familiale, explique la directrice générale. Il n'y a pas de spectateurs à gauche et à droite, des membres d'un groupe, pour plus d'intimité. Les équipes d'accueil peuvent fournir un scénario du spectacle avant que celui-ci débute. Les effets, lumière, son, voix sont tamisés. Les petits spectateurs peuvent se déplacer, entrer, sortir. Ici aussi, il est possible de visiter le décor avant les représentations en audio description. Plusieurs outils sont disponibles. Un toutou ou une couverture lestée, des coquilles pour les oreilles, des gadgets pour occuper les mains. On ne sait pas qui est neurodivergent ou pas dans la salle, explique la directrice, car ces représentations sont mixtes, tous les publics étant les bienvenus, sans billets accessibles particuliers comme il s'en vend ailleurs. Jusqu'ici, tout ce qui a été mis en place à la Maison Théâtre pour remédier à un handicap précis finit par bénéficier à d'autres. Quand le personnel voit un enfant qui se bouche les oreilles avec les mains pendant un spectacle, il va aller lui offrir de porter des coquilles, par exemple. La Maison Théâtre est déjà structurellement adaptée pour les enfants, rappelle Mme Boisclair. L'adaptation, ça fait partie de notre vision depuis toujours. Pour nous, travailler l'accessibilité est une suite logique. Le pari, ajoute la directrice, qui est le même pour tous les théâtres qui tentent l'aventure de cette ouverture, c'est de positionner l'offre accessible avant de voir si le public va venir. On est au commencement de quelque chose. C'est très dur d'évaluer les impacts. Encore faut-il avoir les moyens financiers de continuer. À la Maison Théâtre, c'est beaucoup le financement privé qui maintient ces programmes. Cette quête d'accessibilité contribue à démocratiser l'accès à l'art, enchaîne Alice Côté-Dupuis. Les retombées sont sur tout le milieu artistique, puisqu'en proposant une offre constante, les personnes issues de la diversité capacitaire ont pu changer leurs habitudes, apprendre les codes des salles de spectacle et s'ouvrir à de nouvelles réalités. Le fait que chaque institution collabore de façon si étroite, se prête du matériel et s'entraide autant n'est pas anodin non plus, conclut-elle. C'était « Les gains et les coûts de l'accessibilité au théâtre », un texte de Catherine Lalonde paru le 31 mai 2025 dans Le Devoir.
La haine ordinaire, un texte d'Aurélie Langteau, paru le 7 juin 2025 dans Le Devoir. Vous m'excuserez du retard, mais je ne décolère pas. Le 27 mai 2025, à Brossard, un homme de 46 ans, armé d'une camionnette, Luigi Fragomele, a foncé sur une femme, Caroline de Rome, qui avait installé son campement en bordure de rue. Hospitalisation, opération, cheville broyée, stupéfaction du public et vague de solidarité envers cette mère de famille qui, depuis environ un an, traversait une période de précarité résidentielle. Fragomele fait désormais face à des accusations criminelles. À sa sortie de l'hôpital, Caroline de Rome a accordé des entrevues. La cause de son glissement vers l'itinérance, lui a-t-on demandé sur les ondes de Radio-Canada? Réponse sans équivoque, la crise du logement, le logement inabordable, plus précisément. Le glissement a été progressif, explique-t-elle. Départ contraint d'un logement relativement abordable, puis une perte d'emploi, et l'impossibilité de se reloger, surtout avec des enfants. Sans domicile fixe, donc, elle se disait malgré tout chanceuse de pouvoir compter sur le soutien de ses proches bien logés. La trajectoire est tragiquement typique. Quelques bosses sur la route et tout déraille. Lorsqu'on parle d'itinérance, on se concentre généralement sur deux choses. Sur la meilleure manière de sortir les gens de la rue, ou bien sur les stratégies pour rendre plus harmonieuse la cohabitation entre les personnes domiciliées et non domiciliées. On s'intéresse peu à ce qui vient avant le campement, à l'expérience de la frontière étroite, glissante, entre le loyer payé de justesse d'un mois à l'autre et le camp de fortune. Si on se souciait vraiment de ce qui vient avant la rue, les politiques sur le logement ne seraient pas ce qu'elles sont. Les services d'aide à la recherche de logement à travers la province disent avoir déjà reçu 7000 appels de locataires inquiets de se retrouver sans logis en juillet 2025. Dans la dernière année, le tableau s'est encore assombri pour les locataires. Les réformes issues du projet de loi 31 n'ont pas freiné l'explosion des loyers. S'y ajoute la modification des règles de calcul d'augmentation de loyer du Tribunal administratif du logement, TAL, qui, quoique présentée comme une mesure de simplification, exerce une nette pression à la hausse sur les loyers. Puis, voilà que la ministre Duranceau à une nouvelle lubie. Contrôler le revenu des personnes bénéficiant d'un logement abordable. C'est qu'elle a été choquée d'apprendre par le vérificateur général que 10% des ménages en logement abordable ont l'effronterie de gagner plus que le revenu médian. Les gens qui se sont enrichis après avoir accédé à un logement abordable, nous dit-elle, devrait encaisser une augmentation de loyer. Elle nous propose donc ces jours-ci de créer une nouvelle catégorie de logements abordables dits « intermédiaires ». Au lieu d'étendre l'offre de logements abordables et surtout de logements hors marché, on nous propose de créer des logements dont les loyers sont plus chers, donc plus rentables, un genre de version premium du logement abordable, destiné à la portion de la classe locataire qui mange à sa faim. L'idée est encore loin de se concrétiser, mais le message est limpide. Un locataire, c'est destiné à ne jamais améliorer son sort. Une vision juste et démocratique de l'habitation devrait pourtant procéder de la logique inverse, tendre vers une société où le plus grand nombre de gens consacrent la portion la moins accablante possible de leurs revenus à se loger. Mais ici, le but, ce n'est pas de loger le monde, c'est d'utiliser la politique d'habitation comme levier pour extorquer chaque sou possible à la classe locataire. Dans la foulée de l'agression subie par Caroline de Rome, on discute soudainement de la montée de l'intolérance envers les personnes en situation d'itinérance. D'où vient toute cette hargne? Elle ne surgit pas de nulle part. Et elle n'est pas neuve. Tous les groupes en itinérance le disent. L'escalade de l'intolérance envers les mal logés est documentée partout dans les villes où les personnes précaires sont de plus en plus fréquemment expulsées du parc résidentiel. Cette intolérance est aussi nourrie par les politiques qui disent veiller au maintien de l'ordre public. Face à la détresse de plus en plus visible et à l'intensification des comportements turbulents dans l'espace public, on promet plus de contrôle et de judiciarisation des personnes. On crée l'impression d'une menace qui alimente la peur, déshumanise et, à terme, fabrique la haine. Par ailleurs, des médias ont rapporté que, sur Facebook, Luigi Fragomelli posait en admirateur de Trump. Ce n'est pas un hasard. Dans un contexte où la montée de l'extrême droite et des discours fascisants est indéniable, il ne faut pas oublier que cette idéologie ordonne avant tout une guerre contre les pauvres. La crise du logement est un terreau fertile pour cela. Mais n'oublions pas qu'elle n'est ni récente, ni épisodique. Elle est structurelle. Elle est produite par des décennies de politiques d'habitation qui refusent de miser sur le logement sans but lucratif pour répondre aux besoins de la population. Le logement est un bien qu'on laisse être marchandé. Et on s'étonne des ravages sociaux causés par cette approche. La violence déversée sur Caroline de Rome est un cas extrême, mais ne soyons pas dupes. Elle est parfaitement explicable et cohérente avec l'orientation de nos politiques sociales. C'était « La haine ordinaire », un texte d'Aurélie Langteau, paru le 7 juin 2025 dans Le Devoir.
Pourquoi les hommes sont-ils plus grands que les femmes? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 juin 2025 dans La Presse. Les hommes font en moyenne 13 cm de plus que les femmes. Une nouvelle étude américaine a identifié un gène à l'origine de cette différence, des travaux qui pourraient aider à mieux comprendre d'autres traits liés au sexe, comme les maladies auto-immunes et l'autisme. Quel est le gène lié à la taille? C'est le gène appelé SHOX, Short Stature Homeobox, SHOX, situé sur les chromosomes sexuels X et Y. Pour une raison encore inconnue, il est associé à une plus grande taille quand il se trouve sur le chromosome Y, présent seulement chez l'homme, qui possède un chromosome X et un chromosome Y. Chez les femmes qui ont deux chromosomes X, l'un des deux est atténué, ce qui signifie qu'il est moins actif, explique Alexander Berry, généticien au collège J. Singer en Pennsylvanie, l'un des co-auteurs de l'étude publiée en mai dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, PNAS. Les gènes du deuxième chromosome X des femmes, appelé XI, sont en partie inactifs, précise M. Berry. Il cite une étude de 2017 montrant que les gènes qui échappent le plus à l'inactivation sur XI sont souvent liés à l'expression du phénotype féminin ou masculin, c'est-à-dire les traits qui différencient le plus les deux sexes. Selon les calculs des chercheurs américains, SHOX explique dans une proportion de 22,6% la différence de taille entre les hommes et les femmes. Sur le chromosome Y, il s'exprime par une taille plus grande que s'il est présent sur le chromosome X et encore plus que s'il est sur le chromosome XI. À quoi sert le gène SHOX? Le gène SHOX est surtout connu pour son influence sur la taille, mais il est aussi important pour le développement général de l'embryon et du squelette. Note Alexander Berry. Il est aussi lié à la régulation de l'activité d'autres gènes. Il est donc possible qu'il influence des troubles comme les maladies auto-immunes. Des mutations sur SHOX sont liées à des maladies comme le syndrome de Turner, qui touche les filles et provoque plusieurs problèmes. Retard de croissance, troubles d'apprentissage, perturbation de la puberté. La dysplasie mésomélique, un type de nanisme, ainsi que des anomalies du squelette. Pourquoi les hormones et les gènes rendent-ils les hommes plus grands que les femmes? Des livres entiers pourraient être écrits sur ce sujet, répond M. Berry. Pour être succinct, je pense que nos ancêtres masculins étaient plus susceptibles de se reproduire s'ils étaient plus grands et plus forts. On appelle cela un ajustement évolutif. Les femmes n'avaient pas davantage à avoir une grande taille au niveau du succès reproducteur. Comment les chercheurs ont-ils validé leurs conclusions? Ils ont vérifié la taille moyenne des gens ayant trois chromosomes, XXX, XXY et XYY, et constaté que la taille des XYY était encore plus élevée, avec en deuxième position les XXY devant les XY. Ces anomalies chromosomiques touchent plus de 1% de la population et sont donc beaucoup plus fréquentes que l'intersexualité, une présentation ambiguë des caractères ou des organes sexuels, selon M. Berry. Moins de 5% de ces individus sont diagnostiqués, à l'exception de ceux qui le découvrent en raison de troubles graves de développement ou d'infertilité. Ces résultats sont-ils les mêmes pour les différentes origines ethniques? Nos cohortes étaient surtout de descendance caucasienne, souligne le généticien. Mais nous avons vu des différences plus grandes et d'autres plus faibles entre certains sous-groupes de chromosomes X et Y dans les populations africaines. Ça pourrait refléter un degré d'inactivation différent pour le deuxième chromosome X qui pourrait avoir un impact sur d'autres traits liés au chromosome sexuel. Quels autres traits sont liés au chromosome sexuel? Nous savons que les maladies auto-immunes sont plus présentes chez les femmes et l'autisme chez les hommes, indique Alexander Berry. Nous pensons que notre méthodologie peut être utilisée pour déterminer quels gènes des chromosomes sexuels jouent un rôle important dans des troubles plus fortement associés à un sexe. Au lieu de chercher une mutation génétique seulement présente chez les hommes, on pourrait étudier les mutations exprimées différemment par les gènes des hommes et ceux des femmes. Quelles sont les prochaines questions de recherche sur lesquelles ces chercheurs vont se pencher? Outre les maladies auto-immunes chez les femmes et l'autisme chez les hommes, les chercheurs veulent mieux comprendre pourquoi et comment les gènes du deuxième chromosome X sont inactivés à différents degrés et quel effet cela a sur la santé. De plus, d'autres études sur des individus ayant une déficience d'hormones sexuelles ont permis de calculer que ces hormones expliquent 53,8% de la différence de taille entre les sexes. Comme l'expression de SHOX dans les chromosomes X et Y expliquait 22,6% de cette différence de taille, cela signifie que d'autres facteurs, encore inconnus, sont responsables de 23,6% de la différence de taille. Alexander Berry veut étudier ces facteurs inconnus. L'ABC des chromosomes. Chaque cellule du corps humain a 46 chromosomes, 23 provenant de chaque parent. Les chromosomes sont arrangés en paires. Le nombre de gènes sur chaque chromosome n'a pas encore été formellement établi. À titre de comparaison, la mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster, a 4 paires de chromosomes, le riz, 12, et le chien, 39. Le mot chromosome provient des mots grecs couleur et corps. L'anatomiste allemand Heinrich Wilhelm Waldeyer, 1836-1921, a choisi ce nom parce que les chromosomes étaient fortement teintés par les colorants utilisés pour faire ressortir les structures des cellules sous le microscope. En savoir plus. Source Nature. Entre 50 000 et 150 000, nombre total de gènes. 5 000, nombre de gènes liés à des maladies. Source National Institutes of Health. Entre 100 et 200, nombre de gènes sur le chromosome Y. Entre 900 et 1400, nombre de gènes sur le chromosome X. C'était « Pourquoi les hommes sont-ils plus grands que les femmes? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 juin 2025 dans La Presse.